Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous nous rendrons tout d'abord en Tunisie, plus exactement à Sidi Bouzid, dans cette ville marginalisée devenue il y a 10 ans jour pour jour le berceau d'une révolution qui allait se propager pour donner naissance aux fameux printemps arabes. Près de 6 ans après l'électrochoc des attentats de janvier 2015 et au terme d'un procès historique, la Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé hier un verdict mesuré pour les complices des attaques. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Virginie Sanzico, historienne, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Comme prévu, le Parlement a définitivement adopté ce matin le budget 2021 et ses vertigineuses dépenses d'urgence et de relance face à la crise sanitaire. Enfin, conformément aux mesures sanitaires, lui va s'isoler pendant 7 jours. Lui, c'est Emmanuel Macron, le président de la République, a été testé positif au Covid-19. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
La mémoire d'un génocide, le génocide des Tutsis au Rwanda, ce sera avec notre invitée, l'historienne Hélène Dumas, qui a recueilli des paroles d'enfants qui ont vécu cette tragédie. Elle sera notre invitée à partir de 12h55.
De l'effondrement de régimes dictatoriaux considérés comme indéboulonnables jusqu'à la montée puis la chute d'un califat djihadiste, le Moyen-Orient aura vécu la deuxième décennie du 21e siècle au rythme d'un séisme géopolitique et de ses répliques référencées aujourd'hui dans les livres d'histoire sous le nom de printemps arabes. Autant de soulèvements inédits aux résultats disparates, le plus souvent décevants d'ailleurs, et inspirés par une première révolution, celle dite du jasmin en Tunisie. Or c'est aujourd'hui justement la date anniversaire de l'acte désespéré d'un jeune homme dont le sort tragique libérera une rage jamais vue au point d'insuffler un puissant souffle de liberté à travers toute la région. Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi, jeune vendeur ambulant, excédé notamment par le harcèlement policier dans son pays, allait s'immoler par le feu devant le gouvernorat de la petite ville défavorisée de Sidi Bouzid. Notre envoyé spécial, Valérie Crova, s'est justement rendu là-bas où tout a commencé, donc dans cette petite bourgade qui a vu naître le printemps arabe avant de devenir le berceau ébréché de la révolution, car sur place, l'heure est depuis bien longtemps déjà au désenchantement, même si la démocratie s'est installée, c'est vrai. La situation économique est telle aujourd'hui que les Tunisiens n'ont plus d'espoir, au point d'ailleurs que les commémorations d'aujourd'hui ont pris l'allure de manifestations contre le pouvoir.
Ils ont posé des affichettes sur un cercueil en carton. Ils, ce sont les chômeurs de longue durée, qui organisent un sit-in à côté de la statue symbolisant la charrette de Mohamed Bouazizi, mort il y a 10 ans.
Il y a des diplômés qui ont 20 ans, 18 ans, 16 ans, 14 ans, 15 ans.
De chômage.
De chômage. Malgré, on a des ingénieurs, on a des techniciens. La révolution, c'est pour travailler, pour améliorer la situation économique, la situation sociale. Mais rien n'a changé. On a diminué en qualité de vie, en qualité des roues, en qualité de vie. Cette route est la route de Ben Ali. J'ai 35 ans. Je peux vous dire que c'est de 1995.
Derrière les chômeurs de longue durée, ce sont les avocats qui manifestent. Ils ont joué un rôle important dans le déclenchement de la révolution.
On veut dire que la révolution n'a pas donné ses objectifs et on dit que la révolution se continue. La révolution a été volée par les arrivistes, par les forces islamiques, par les forces politiques qui appartiennent aux anciens régimes.
Deux femmes, Gamoudi et Aziza, la cinquantaine, ont confectionné des banderoles sur lesquelles elles ont écrit une phrase de l'hymne national tunisien. Elle évoque les traîtres qui ne trouveront pas de répit en Tunisie.
Nous sommes tristes, on n'a rien. On a reculé des années et des années arrière. La révolution, c'est les jeunes qui ont fait la révolution. La démocratie, c'est une grande mensonge. Ben Ali, il y a un seul voleur. Mais maintenant, tous sont des voleurs.
Nos cœurs sont blessés.
Sidi Bouzid est plus que jamais aujourd'hui la capitale d'une révolution inachevée.
Voilà un reportage signé Valérie Crova et Hélène Langlois. Alors 10 ans après, que reste-t-il donc du printemps arabe basé sur une prise de conscience collective que les tyrans ne sont pas invincibles, que les changements peuvent venir de l'intérieur et pas seulement du jeu géopolitique mondial. L'espoir et même l'euphorie avaient un temps chassé le fatalisme de la vie politique au point de faire émerger un nouveau paradigme au Moyen-Orient. Seulement voilà, force est de constater aujourd'hui que tout ce qui avait fait rêver la région, Claude Guibal, a fait long feu.
En Tunisie, en Égypte, en Syrie, au Bahreïn, au Yémen, partout, ce qui a mobilisé les populations dans les rues au moment de ces printemps arabes, ce sont souvent les mêmes revendications, les mêmes slogans de citoyenneté, le refus du Nizam, le système avec le rejet de régimes prédateurs et corrompus, les revendications sociales d'égalité, de citoyenneté, l'accès à des services publics minimums, l'éducation, le soin, l'emploi, la santé, tout cela résumé en un mot, Erhal, dégage en arabe, ce Erhal lancé au pouvoir en place. Les guerres en Syrie, au Yémen ou en Libye, avec leurs épouvantables bilans humains et leurs conséquences géopolitiques, ont été comme des douches froides qui ont contribué à éteindre tout début de contestation populaire dans le monde arabe depuis 10 ans. Comme en Égypte, avec l'élection du frère musulman Mohamed Morsi, qui a également vacciné tous ceux qui oseraient contester des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs qui ne se maintiennent pourtant en place qu'en créant les conditions de leur survie, en muselant les oppositions sur le thème « c'est nous ou les islamistes ». Restent quand même cause les mêmes effets, au Liban, en Irak, en Algérie ou au Soudan, pour ne citer qu'eux, la colère citoyenne se fait à nouveau entendre pour les mêmes raisons. 10 ans après le début des printemps arabes, leur souffle n'est peut-être pas totalement éteint.
Tous coupables hier après 3 mois de procès intense, la cour d'assises spéciale de Paris a rendu son verdict. En l'occurrence, les juges ont estimé que la complicité des accusés, soutien présumé des auteurs des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'hyper cacher, était avérée. Les peines s'étendent de 4 ans de prison à la réclusion à perpétuité, ou dit autrement, des peines globalement inférieures aux réquisitions du parquet national antiterroriste. Les magistrats ont notamment abandonné la qualification terroriste pour 6 accusés, reconnus coupables du seul délit d'association de malfaiteurs. Le seul condamné qui devra passer le reste de sa vie derrière les barreaux, si toutefois il réapparaissait, est Mohamed Belloussine, présumé mort en Syrie et jugé par défaut. Quant au principal accusé, Ali Riza Polat, considéré comme le bras droit d'Amédi Coulibaly, la pièce maîtresse de ces attentats, il écope de 30 ans de réclusion et échappe donc à la perpétuité, ce qui n'empêche pas son avocat Antoine Vanry de dénoncer une peine trop lourde et d'annoncer que son client fera appel.
Il échappe à la perpétuité et heureusement, j'ai envie de dire, on sait que la femme de Coulibaly, elle, a aussi écopé de 30 ans. Ça nous semble vraiment une décision excessive. On a échangé quelques mots avec lui, sans trahir le secret professionnel évidemment. Il n'était pas surpris de cette condamnation, même pas soulagé d'avoir que 30 ans, comme on peut dire. 30 ans, c'est déjà énorme. Ça veut dire qu'il reste environ encore 20 ans en prison aujourd'hui. Lui considérait qu'il avait déjà été jugé médiatiquement par les articles de presse, etc. Qu'il fallait un accusé qui pouvait éponger, si vous voulez, la frustration des juges de ne pas avoir, d'une part, les frères Kouachi, d'autre part, M. Coulibaly. Et je rappelle quand même que M. Polat ne connaît pas les frères Kouachi, il ne les a jamais rencontrés. On ne peut pas dire qu'il partage l'idéologie de ces personnes-là. On va faire appel dès que M. Polat se verra notifier l'arrêt de la cour d'assises.
Voilà, Antoine Vanry, avocat de Ali Riza Polat, au micro de Florence Turme. Alors, que restera-t-il de ces 54 jours d'audience dans cette salle du Palais de Justice de Paris? Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Virginie Sansico, historienne, chercheur au Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Bonjour madame.
Bonjour.
Des semaines durant, la cour d'assises spéciale de Paris aura donc cherché à dénouer l'écheveau tragique qui a conduit au massacre de Charlie Hebdo, de l'hyper cacher. Son verdict prouve que la plupart des complices savaient que les frères Kouachi et Amédi Coulibaly envisageaient le pire. Pour autant, on l'a dit, ce verdict est aussi sensiblement différent des réquisitions. Diriez-vous que cela change quelque chose à la dimension historique de ce procès?
Alors effectivement, le verdict a déconstruit le récit des enquêteurs et du parquet national antiterroriste. Ce qui est une marque d'indépendance importante des juges, mais qui était servie par un dossier qui peinait à convaincre. Donc comme ça a été dit, l'AMT, l'association de malfaiteurs terroristes, a été supprimée pour une part importante des accusés, c'est-à-dire que les juges ont estimé que leur conscience des intentions terroristes des auteurs directs des attentats n'était pas prouvée par le dossier et qu'il y avait un véritable risque d'erreur judiciaire. Mais effectivement, l'association de malfaiteurs est maintenue L'association de malfaiteurs non terroristes est maintenue, donc tout le monde est condamné, ce qui montre la complexité du dossier, une nébuleuse importante de gens impliqués dans ces attentats.
Vous parliez à l'instant de nébuleuse. Au-delà, diriez-vous que c'était d'une certaine manière un procès impossible ? Parce que, au-delà des faits, son enjeu dépassait largement celui des 14 accusés de cette nébuleuse. C'était aussi un enjeu pour la laïcité, pour le droit de blasphémer, pour la liberté.
Alors, c'était effectivement, il y avait beaucoup d'enjeux qui portaient sur ce procès, qui était historique par ordonnance, ce qui est quand même singulier, puisque l'ordonnance du 30 juin 2020 de la Cour d'appel autorisait l'enregistrement audiovisuel de ce procès, justement parce qu'il était considéré comme important pour la constitution d'archives historiques de la justice. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enjeux qui pesaient sur ce procès. Mais la décision des juges qui a été quand même de remettre en cause ce récit et la politique pénale assez ferme qui était affirmée par les avocats généraux montre qu'il y a une indépendance et que les juges ont su se prendre de la distance avec ces enjeux symboliques qui ont été très présents durant les audiences, très présents du début à la fin. Mais pour autant, c'est une justice assez rationnelle et sereine qui a été rendue hier.
Sans doute à cause de ces enjeux symboliques que vous évoquiez à l'instant, beaucoup espéraient que ce procès serait une sorte de catharsis, qu'il puisse amener un certain apaisement. Au fond, est-ce que l'un des enseignements de ce long procès, eh bien, c'est que la condamnation des complices de ces attentats, qui plus est lorsque les peines de prison prononcées donc sont moins lourdes que celles requises, ne sera jamais totalement réparatrice ?
Alors c'est une vraie question qui se pose. Après, les échanges qu'on a pu avoir durant tout ce procès et hier, qui plus est, avec les parties civiles, montrent que le souhait d'avoir une vérité, même si c'est celle du dossier et c'est celle qui est en l'état, c'est-à-dire en l'absence des trois auteurs directs qui sont morts et de trois des plus proches qui sont présumés morts en Syrie pour deux d'entre eux et en fuite pour l'une d'entre elles, malgré leur absence, il fallait une vérité. Voilà. Et cette vérité, elle est quand même d'une certaine manière ressortie du dossier avec toutes ses failles, tous ses manques, mais elle montre la réalité de ce dossier tel qu'il est connu à l'heure actuelle en l'absence des auteurs les plus importants, effectivement.
Virginie Sansicot, on sait d'ores et déjà qu'il y aura un second procès, donc puisque le principal accusé, Ali Riza Polat, va faire appel. Qu'est-ce que ce nouveau procès est-il susceptible de représenter pour les victimes ?
Alors pour l'instant, les victimes, de ce qui ressort, ce qui est ressorti d'hier, c'est qu'elles ont besoin de souffler. Hein, c'est très général. Ces trois mois ont été un véritable marathon judiciaire pour tous les acteurs de ce procès. Et il y a un véritable besoin de souffler. Après, ce qu'on sait d'un procès en appel, c'est que les cartes sont quand même rebattues, en tout cas pour les accusés qui vont faire appel. Les dés sont rejetés et on ne sait pas ce qui peut en ressortir. On peut avoir en tête le procès Mera, dont l'issue avait été très différente entre la première instance et l'appel. Donc, les questions sont posées, elles sont reposées de nouveau. Et effectivement, il faudra sans doute revivre à nouveau des épisodes d'audience qui sont pas évidents pour les parties civiles, puisque la violence des faits qu'ils ont vécus contraste beaucoup avec les enjeux et la manière dont est codifiée une audience.
Une dernière question, Madame Sansicot, en quelques mots, s'il vous plaît. Comment ce procès préfigure-t-il, selon vous, tous les autres à venir, notamment s'agissant de celui des attentats du mois de novembre prévus en septembre prochain ?
Alors d'une certaine façon, c'est avec ce procès des attentats de janvier 2015, c'est l'ère du procès symbole du terrorisme qu'on connaissait pour d'autres cas. Hein. Par exemple, les procès de la Deuxième Guerre mondiale étaient aussi des procès symboles, Barbie, Touvier, Papon. Mais là, c'était nouveau pour le terrorisme. Donc c'est cette ère du procès symbole qui va se poursuivre, mais en plus gros avec le procès des attentats du 13 novembre 2015, puisque... si dans le procès qui vient de s'achever, on avait environ 200 parties civiles, là, il y en aura 1750. Il y aura 300 avocats. Et donc le déséquilibre entre les parties civiles et les accusés va être encore plus flagrant. Donc un déséquilibre qui a fait l'objet de beaucoup de questionnements, beaucoup de débats pendant ce procès-là, va se reposer de nouveau l'année prochaine. C'est une évidence. Après, il n'y aura pas que ces procès symboles à l'avenir. Par exemple, on va avoir bientôt, dans les années à venir, le procès, par exemple, des gens qui ont concouru à l'assassinat de Samuel Paty. Et en l'espèce, on retombe dans un procès, on va tomber dans des formes de procès qui touchent des gens très ordinaires. C'est-à-dire que ça va impliquer des parents d'élèves, des élèves et tout ça. Donc voilà, on aura sans doute des procès très contrastés à l'avenir, avec ces énormes procès symboles qui vont se tenir. Et puis à côté, de nouvelles formes de procès sur des gens plus ordinaires qui vont poser question aussi énormément.
Merci Virginie Sansico, historienne, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, d'avoir répondu à notre invitation.
12h45, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Parce qu'on ne compte plus ces expressions euphémiques à travers lesquelles les décideurs évitent généralement de prononcer les mots qui fâchent pour en préférer d'autres qui annoncent moins ce qu'ils signifient réellement. Les syndicats d'EDF ont lancé un nouvel appel à la grève aujourd'hui, ou quand les projets d'adaptation, de réorganisation de la direction font craindre aux salariés un premier pas vers un démantèlement et une privatisation de leur entreprise. En l'occurrence, le projet baptisé Hercule, porté par la direction avec le soutien du gouvernement, prévoit une séparation entre d'un côté le parc nucléaire existant et puis de l'autre toutes les activités commerciales du groupe, de même que celles liées aux énergies renouvelables et qui pourraient être regroupées dans une filiale ouverte à des capitaux privés, un schéma derrière lequel les syndicats croient déjà voir se dessiner le scénario du pire. Et puis les syndicats de la RATP, cette fois-ci, appellent eux aussi à la grève aujourd'hui pour protester contre les conditions de transfert des agents dans le cadre de la prochaine ouverture à la concurrence de la régie. La fin d'un marathon budgétaire hors norme. Ce matin, le Parlement a définitivement adopté le projet de budget 2021. L'aggravation de la crise sanitaire, comme le deuxième confinement, avait parasité à plusieurs reprises l'examen de ce texte, poussant le gouvernement non seulement à réajuster à la baisse ses prévisions macroéconomiques, mais aussi à prolonger les aides d'urgence pour les secteurs sinistrés. Alors, le vote favorable de la majorité était attendu, tant elle aura cherché à faire du plan de relance l'axe central de ce budget. En revanche, quand la gauche juge précisément cette relance encore très en deçà des besoins, à l'inverse, la droite s'inquiète du remboursement de ces vertigineuses dépenses d'urgence. Et puis, l'opposition s'accorde tout de même sur un point. Selon elle, la majorité a été à la fois sourde et soumise à l'exécutif. Les précisions de Marie Viennot.
Sans surprise, l'opposition n'a pas voté pour ce projet de loi de finances 2021. Les Républicains, parce qu'ils considèrent que la majorité ne prend pas la mesure de la crise et qu'elle est trop laxiste sur la dette. Ils avaient pourtant voté les 4 projets de loi de finances rectificatives, a rappelé Véronique Louwagie. Mais là, ils jugent qu'il leur a été impossible d'influencer le texte.
L'opposition de droite comme de gauche a été ignorée. Vous n'avez d'ailleurs pas hésité en première lecture, lorsque le résultat d'un vote ne vous convenait pas, à recourir au procédé de la seconde délibération pour nous faire revoter en catimini en pleine nuit.
La lecture finale du projet de loi de finances est achevée à 5h45 du matin, a souligné Éric Coquerel en présentant la motion de rejet préalable déposée par la France Insoumise. Il conteste la rapidité avec laquelle le texte a été examiné lors de sa deuxième lecture, alors même que le second confinement changeait profondément la donne.
Je ne me satisfais pas que, par exemple, en quelques minutes, on vote 90 amendements d'un coup où il y a dedans le RSA jaune, 1 milliard pour les quartiers populaires, etc.
Le fait que les modifications apportées par le Sénat soient pour la quasi-totalité annulées par la majorité, c'est aussi une frustration commune à la gauche et la droite, notamment sur la taxation du e-commerce, qui était une proposition transpartisane. De son côté, la majorité estime que ce projet de loi de finances exceptionnel permettra, dit son rapporteur Laurent Saint-Martin, de préparer la France de 2030 grâce au plan de relance. La dette atteindra certes un montant inégalé à 122% du PIB, mais le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a de nouveau promis qu'elle serait plus tard maîtrisée.
Après avoir dévoilé hier la stratégie vaccinale du gouvernement devant les députés, le Premier ministre Jean Castex et son ministre de la Santé Olivier Véran renouvelaient l'exercice ce matin au Sénat, l'occasion de répéter le calendrier. Les premières vaccinations débuteront dès la dernière semaine de décembre. Cette première phase concernera 1 million de personnes et durera 6 à 8 semaines. Dans un deuxième temps, la vaccination sera élargie à 14 millions de personnes présentant des facteurs de risque élevés. Et puis ce n'est qu'à la fin du printemps que la vaccination sera ouverte cette fois-ci à l'ensemble de la population. L'Élysée l'a annoncé ce matin, le chef de l'État va devoir s'isoler pendant 7 jours. Emmanuel Macron a en effet été testé positif au Covid-19. Il continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, précise aussitôt la présidence dans un communiqué, même si, Solène Cressan, la contamination du chef de l'État aura plusieurs conséquences, et en particulier avec l'isolement de plusieurs personnalités politiques en France comme à l'étranger.
À commencer par Jean Castex, considéré comme cas contact, mais les résultats de son test de ce matin viennent de tomber. Le Premier ministre est négatif au Covid. Il va tout de même faire un deuxième test dans 7 jours, conformément au protocole sanitaire, précise le communiqué de Matignon. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a remplacé au Sénat ce matin pour la présentation de la stratégie vaccinale. Brigitte Macron s'isole aussi, sans symptômes. Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, est cas contact également. Il fera un test dans les prochains jours. Plusieurs chefs de groupe parlementaires indiquent qu'ils se surveillent après un déjeuner avec le chef de l'État. Des conséquences en cascade aussi à l'étranger, alors qu'Emmanuel Macron était au sommet européen de Bruxelles la semaine dernière. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et Charles Michel, président du Conseil européen, sont cas contact d'Emmanuel Macron. Il s'isole pour les prochains jours.
Alors, il se trouve qu'Emmanuel Macron avait prévu de réunir aujourd'hui un conseil présidentiel au développement. Sera-t-il maintenu? Pour l'heure, nous n'avons toujours pas la réponse. Quoi qu'il en soit, l'Élysée entend bien aujourd'hui réformer l'aide publique au développement, comprenez, augmenter et réorienter son aide aux pays pauvres. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'objectif est donc d'améliorer l'efficacité de l'aide et notamment, Bertrand, en la concentrant sur les pays et les secteurs qui en ont le plus besoin.
Oui, la France va dépenser plus d'argent pour venir en aide aux pays pauvres. C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. L'an dernier, Paris y a consacré près de 11 milliards d'euros. L'objectif est d'atteindre 14 milliards en 2022. Et l'Élysée veut modifier la façon dont l'aide est distribuée. Jusqu'à présent, la France visait des pays émergents comme le Brésil, la Colombie ou le Mexique, dont on espérait qu'ils rembourseraient plus facilement que certains États africains. Désormais, des dons purs et simples vont être privilégiés et orientés vers 18 pays pauvres ou en développement en Afrique, plus Haïti. Et cette aide sera fléchée vers des secteurs essentiels comme l'éducation. En Afrique, maintenir les filles à l'école permet de lutter contre les mariages forcés et contre les grossesses précoces. Dernier volet, un mécanisme indépendant d'évaluation va être installé. Il s'ajoutera au millefeuille des strates de vérification. La France espère aussi impacter la façon dont les pays partenaires mènent leur politique publique. Un défi, compte tenu de l'extrême réticence de beaucoup de pays africains face à toute forme d'incitation, souvent vue comme de l'ingérence. Enfin, une question essentielle, celle de la corruption en Afrique et donc de la disparition d'une partie de l'aide, n'est pas directement abordée.
Merci Bertrand Galichet. Les plateformes de vidéos à la demande vont enfin financer la création cinématographique française. Roselyne Bachelot l'a annoncé ce matin chez nos confrères de France Inter. Alors cette annonce concerne tous les géants comme Netflix, Disney Plus ou encore Amazon Prime, qui jusqu'à présent ne contribuaient pas à l'exception culturelle française. Et la ministre de la Culture en parle d'ores et déjà comme d'une révolution.
Nous avons abouti parce que nous avons négocié à la fois avec les producteurs, avec le monde du cinéma et le monde des plateformes. Nous transmettons au CSA et à la Commission européenne ce qu'on appelle le décret SMAD des services de médias audiovisuels à la demande qui vont obliger les plateformes à participer à la création.
Voilà, les diffuseurs, en somme, appelés donc à financer les créateurs. Maxime Tellier, bonjour.
Bonjour Thomas.
C'était une annonce extrêmement attendue par l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, Maxime.
Oui, car on parle d'un montant d'au moins 200 millions d'euros en plus pour la création de films, de séries et de documentaires en France. 20 à 25% du chiffre d'affaires français de ces plateformes, c'est le taux annoncé par la ministre, alors qu'actuellement, elle ne contribue pas à ce mode de financement si particulier à notre pays. Et Netflix devrait être le plus gros payeur, entre 150 et 200 millions d'euros par an pour la plateforme qui a gagné un nombre record d'abonnés avec le confinement. Un sujet que connaît bien Capucine Cousin. Elle a écrit un livre, Netflix et compagnie, les coulisses d'une révolution, chez Armand Collin.
Ce qui est certain, c'est qu'enfin, Netflix va mettre la main à la poche. Et a priori, c'est une bonne nouvelle. Alors, cela dit, Netflix, entre autres, avait déjà fait preuve de bonne volonté en tournant certaines œuvres, des documentaires ou des séries télévisées en France. Il est vrai qu'en plus, tout ce qui s'est passé cette année où on a vu des films qui ont été proposés directement en VOD, en vidéo à la demande, à cause des fermetures des salles, a peut-être aussi accéléré les usages en la matière et a peut-être facilité les négociations sur cette chronologie des médias.
Et en échange, plus les plateformes paieront cher, plus elles auront le droit de diffuser tôt les œuvres. On appelle cela la chronologie des médias. Actuellement, elles pouvaient proposer un film 36 mois après la sortie en salle. Ce matin, la ministre de la Culture a évoqué un délai ramené à 15 mois. Désormais, la balle est dans le camp du CSA pour fixer les taux et signer des conventions avec les plateformes.
Merci Maxime Tellier. Google fait l'objet d'une nouvelle attaque des autorités américaines. Au total, 10 États emmenés par le Texas ont accusé hier le géant de l'Internet de pratiques anticoncurrentielles. Plus exactement, le géant de la Silicon Valley est accusé de manipuler à son avantage les prix de la publicité en ligne. On termine avec un mot de météo pour cet après-midi, marqué par de légères précipitations à l'est du Massif central vers la Bourgogne et sur le Languedoc. Partout ailleurs, le ciel restera le plus souvent sec, mais nuageux avec de timides éclairs. Quant aux températures, on les afficheront entre 9 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Claire Flochel pour le prochain journal de la rédaction.